Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, Véroa Afrique, édition du lundi 18 octobre 2021, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Nanit Talani.
Pour commencer, les titres.
Cap Vert, le candidat de la gauche, l'ex-premier ministre José María Nieves, a été élu président dès le premier tour.
Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo lance sa nouvelle formation politique, le Parti des Peuples Africains.
Mali, message ferme de la CEDEAO à la junte sur les élections promises en février lors d'une brève visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo.
Le groupe Wagner se substitue à l'autorité de l'État en Centrafrique, affirme le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
Ne manquez pas notre page sport.
Pour l'instant, le journal.
Au Cap-Vert, le candidat du parti de la gauche historique, l'ex-premier ministre José María Nieves, a remporté hier la présidentielle dès le premier tour dans cet archipel cité en exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest. Il devance largement Carlos Veiga du MPD, Mouvement pour la démocratie, parti de centre droit majoritaire au Parlement.
Selon des résultats provisoires portant sur 97% des bureaux de vote et publiés sur un site officiel, M. Nieves, 61 ans, membre du PAICV, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert et chef du gouvernement de 2001 à 2016, a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour. M. Veiga a reconnu sa défaite devant les télévisions et félicité son adversaire.
En Côte d'Ivoire, le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, officiellement porté sur les fronts baptismaux. M. Gbagbo a lancé hier dimanche le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, marquant son retour au premier plan sur la scène politique après 10 ans d'absence. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Devant plusieurs centaines de cadres et militants pour son premier discours devant une audience de cette envergure depuis son retour en Côte d'Ivoire mi-juin, Laurent Gbagbo a promis de poursuivre son engagement politique. « Je ferai de la politique jusqu'à ma mort », a assuré l'ancien chef de l'État sous innovation. Laurent Gbagbo avait, sans surprise, été élu à la tête du PPACI par une acclamation des quelques 1600 congressionnistes présents à Abidjan. Le logo du parti, les doigts des deux mains entrelacés dans une carte de l'Afrique, a ensuite été officialisé, symbolisant la visée panafricaine de ce nouveau parti et de son leader. Dans une allocution de plus d'une heure, remplie d'anecdotes, il est longuement revenu sur ses 10 années d'incarcération à La Haye et les poursuites pour crimes contre l'humanité engagées par la CPI, dont il a finalement été acquitté l'an dernier. Le Front patriotique ivoirien FPI, qu'il a fondé dans la clandestinité en 1982, est désormais aux mains de son ex-premier ministre Pascal Affinguessan, avec lequel M. Gbagbo est en rupture politique.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État ouest-africains, s'est rendu hier au Mali. C'était, selon un membre de sa délégation, pour délivrer à la junte au pouvoir un message ferme et sans ambiguïté sur la tenue des élections aux dates prévues en février. Le chef de la junte et président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est livré pour sa part à un plaidoyer pro domo, a-t-il dit, sans plus de précision. Nana Akufo-Addo a effectué cette visite de quelques heures en plein doute sur le respect de ses engagements par la junte.
Selon la même source, une délégation de la CEDEAO reviendra à Bamako avant fin octobre en espérant obtenir des assurances. Il avait été demandé aux autorités de soumettre au plus tard fin octobre un calendrier des étapes essentielles en vue d'élections en février 2022. En réaction aux pressions exercées par la CEDEAO ou la France, s'est tenue hier près du palais une manifestation de soutien aux autorités derrière une banderole proclamant « Seul le choix du peuple souverain du Mali compte ».
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a accusé hier soir les mercenaires du groupe privé russe Wagner de se substituer à l'autorité de l'État en Centrafrique et d'en confisquer la capacité fiscale. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays, a-t-il affirmé dans l'émission C'est dans l'air sur la chaîne France 5.
L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où, finalement, pour pouvoir se payer, ils confisquent la capacité fiscale de l'État, a-t-il dit. La France, très impliquée militairement dans la lutte antiterroriste au Mali, a d'ores et déjà averti les autorités de transition malienne qu'une présence de Wagner dans leur pays remettrait en cause son engagement militaire au Mali.
Au Soudan, des centaines de manifestants ont entamé hier leur deuxième nuit de sit-in pour réclamer au gouvernement deux militaires afin de sortir le pays du marasme politique et économique, aggravant davantage encore ce que le Premier ministre Abdallah Hamdok a décrit comme la pire crise du Soudan post-Béchir. La manifestation est organisée par une faction dissidente des FFC, une alliance civile qui a été le fer de lance des manifestations anti-Bachir et est devenue un élément clé de la transition. On craint une montée des tensions alors que le canal historique des FLC appelle à une manifestation rivale jeudi pour réclamer un transfert complet du pouvoir aux civils.
4 personnes sont mortes et 19 portées disparues après qu'un bateau transportant des migrants tous tunisiens a chaviré devant les côtes tunisiennes. Au total, 30 migrants avaient pris place sur une petite embarcation et 7 ont pu être secourus. Selon le porte-parole d'un tribunal local, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir participé à l'organisation de la tentative de traversée de la Méditerranée.
Les transports étaient à l'arrêt total ce dimanche au royaume des Swatini, en signe de protestation contre la dernière monarchie absolue d'Afrique secouée par une nouvelle vague de manifestations anti-régime. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Dans les villes, les habitants n'ont eu d'autre choix que de se déplacer à pied. De nombreux employés n'ont pu se rendre sur leur lieu de travail et la plupart des commerces sont restés fermés. Il n'y aura aucun transport dans aucune ville et aucun village, à moins que le roi Swaiti ne libère deux élus d'opposition arrêtés en début d'année, a averti à l'issue d'une réunion un représentant de l'association des transports. Depuis plusieurs semaines, les écoliers et lycéens manifestent dans le calme pour réclamer la fin du régime et la gratuité de l'enseignement. Les opérateurs de bus se sont joints à la protestation mercredi, au cours de laquelle une personne a été abattue. L'armée et la police ont été déployées cette semaine dans les établissements scolaires et plusieurs élèves ont été arrêtés, selon les militants pro-démocratie. Le pouvoir a annoncé samedi la fermeture des écoles pour une durée indéterminée. Une précédente vague de manifestations pro-démocratie, en juillet, organisée par la société civile et l'opposition dans les deux principales villes du pays, Manzini et Mbabane, avait fait au moins 28 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, le gouvernement fait face à une nouvelle crise après l'enlèvement d'une quinzaine de missionnaires et de membres de leurs familles, des ressortissants américains pour l'essentiel. Des ONG haïtiennes appellent à leur libération. Le point avec Abdourahmane Dia.
D'après une source sécuritaire, les missionnaires et leurs familles revenaient d'une visite dans un orphelinat situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale haïtienne quand un gang appelé 400 Mawozo a détourné plusieurs véhicules qui circulaient sur des axes routiers qu'il contrôle, enlevant les citoyens américains ainsi qu'un nombre encore indéterminé de haïtiens. Il s'agit pour certains de ces membres de l'organisation religieuse basée dans l'État américain de l'Ohio de leur premier voyage en Haïti. Selon Gédéon Jean, directeur du Centre d'analyse et de recherche en droits humains qui lance un appel pour la libération du groupe, la police se montre incapable d'affronter les gangs qui s'organisent davantage et contrôlent toujours plus de territoires dans la zone métropolitaine, mais aussi vers les villes de province. La nature a horreur du vide, donc les gangs en profitent pour se renforcer, a-t-il ajouté, en expliquant la prolifération des gangs par l'absence de l'État. Les autorités américaines ont pour l'instant dit que le bien-être et la sécurité des citoyens américains à l'étranger étaient une des plus grandes priorités du département d'État.
Ici aux États-Unis, trois hommes blancs sont jugés à partir de ce lundi pour le meurtre du jeune jogger noir Ahmed Arbery, qu'ils avaient pris en chasse. Cette affaire que la justice locale avait tenté d'étouffer avait scandalisé l'Amérique et alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020. Le procès de Gregory McMichael, 65 ans, de son fils Travis, 35 ans, et d'un de leurs voisins, William Bryan, 52 ans, commencera par la sélection des jurés dans un tribunal de l'État de Géorgie à Brunswick.
La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a affirmé hier avoir tué plus de 165 rebelles houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville stratégique de Marib, où les combats ont fait environ un millier de morts ces derniers jours.
L'ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, a quitté hier matin l'hôpital de Californie où il avait été admis mardi pour une infection, a annoncé le chef de l'équipe de médecins qui l'ont soigné. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football au programme ce matin, les Coupes d'Afrique des clubs et on commence par la Ligue des Champions avec le deuxième tour préliminaire aller.
Oui, et la phase de poule se rapproche pour certaines équipes, notamment les Marocains du Raja de Casablanca qui sont allés battre 2-0 les Libériens du LPRC Oilers. Même cas de figure pour les Tanzaniens de Simba sur le terrain des Botswanais de Galassi. À domicile cette fois-ci, les Mauritaniens du FC Nouadhibou ont réalisé une belle opération en dominant 3-1 les Algériens de l'Entente de Sétif, tout comme les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan qui recevaient l'autre club algérien, le CR Belouizdad, de finaliste de la précédente édition.
Les Mamelodi Sundowns ont été accrochés à Kinshasa.
Score 2-2 face à Manema Union. Et pourtant, les Sud-Africains, vainqueurs de la compétition en 2016, menaient à quelques minutes de la fin du match. Un autre nul 2-2 à Brazzaville, entre l'AS Otoho Doho et le Petro Atlético de Luanda. Et comme le Mamelodi Sundowns, un autre vainqueur de cette Ligue des Champions, a été bousculé. Il s'agit de l'Espérance de Tunis qui s'en sort à Benghazi avec un nul 0-0 face au Libyen d'Al Ittihad.
Rapidement, Élisée, les autres résultats de ce second tour. Allez.
Avec le tenant du titre, Al Ahly, qui a dû se contenter du match nul 1-1 au Niger sur le terrain de l'US Gendarmerie Nationale. 1-1. C'est aussi le résultat du match River du Nigeria, Al Hilal du Soudan, l'autre représentant égyptien. Le Zamalek s'est quant à lui imposé 1-0 au Kenya sur le terrain de Tusker. Belle opération aussi pour les Guinéens d'Oroya, vainqueurs 1-0 à Bamako sur le terrain du Stade Malien à domicile. Les Ghanéens d'Assofoc ont fait l'essentiel devant le Wydad de Casablanca. A signaler qu'en ouverture, le TP Mazembe s'est contenté du nul 0-0 en Afrique du Sud devant Amazulu.
On joue aussi les matchs aller du deuxième tour en Coupe de la Confédération et le Daring Club Motema Pembe prend une belle option pour la qualification.
Les Verts et Blancs, vainqueurs 2-1 sur la pelouse de l'AS Kigali. Succès a confirmé à Kinshasa en fin de semaine. C'est cuit ou presque en revanche pour les Malgaches de CFFA, giflés à domicile par les Angolais d'Interclobé 3-0. Enfin, service minimum à domicile pour les Nigériens de Balsa aux dépens des Tunisiens du club sportif sfaxien.
La suite des résultats avec la contre-performance des Djambars.
Exactement, Idrissa. Désillusion à domicile des Sénégalais battus 1-0 par les Nigériens d'Enimba. Les Burkinabés de l'Assa Yedega ont fait pareil au Mali contre Binga. Victoire en déplacement aussi des Algériens de la JS Aoura 2-1 chez les Mauritaniens de Concorde. Même score en faveur d'Opara United qui recevait chez lui les Camerounais de Coton Sport de Garoua. Et puis 0-0 entre Diable Noir du Congo et Orlando Pirates d'Afrique du Sud.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été élu tout premier président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à l'issue d'un congrès constitutif de 2 jours à Abidjan. Le président du PPACI, dans son discours de clôture, a partagé sa vision avec l'assistance et donné les raisons qui ont motivé la création de ce nouveau parti politique. Des détails avec Delphine Bouhouise, notre correspondante à Abidjan.
L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a sans surprise été élu à la tête du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire par acclamation de plus de 1600 congressistes. Ainsi, Laurent Gbagbo a lancé son nouveau parti, un acte qui concrétise son retour au premier plan sur la scène politique après 10 années d'absence. Dans une allocution de plus d'une heure, le président du PPACI a donné les raisons de la création de ce parti, Laurent Gbagbo.
Que je vous ai proposé. C'est une structure pour préparer mon retrait, pour que demain, je puisse m'en aller tranquillement dans mon village sans regret. C'est une structure pour que le parti lui-même puisse avoir l'œil sur celui qui le dirige. Il faut que nous ayons toujours notre instrument de combat.
Poursuivant sur sa lancée, Laurent Gbagbo s'est prononcé sur son avenir politique.
Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. Pas de partir pour vous abandonner. Moi, je serai toujours un militant de base. J'ai dirigé un parti, j'ai dirigé un État. Que je cherche à cet âge ici, après ce parcours-là, la sagesse, c'est de se préparer à partir.
Plusieurs partis politiques ont été invités à ce congrès. Adama Bitogo, au nom du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a souligné que le RHDP est disposé à renforcer les liens avec le nouveau parti de Laurent Gbagbo.
Je voudrais vous dire que le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo.
Du côté du PDCI-RDA, le vice-président Georges-Philippe Ezalé estime que ce nouveau parti doit mettre un point d'honneur sur le processus de cohésion sociale.
Les valeurs qui comprennent celles de cohésion sociale, du rassemblement des fils et filles de notre pays, doivent être les maîtres mots d'une formation politique comme la vôtre.
Docteur Succès Masra, de la délégation du Tchad, président du Parti des Transformateurs, préconise et rêve d'un panafricanisme du 21e siècle. C'est simplement le leadership serviteur. Paul Lecoq, du Parti communiste français, a relevé les similitudes avec la vision de Laurent Gbagbo.
Pour sécuriser la vie humaine et relever les défis sanitaires, voilà notre projet commun.
À l'entame des travaux pour la première journée, le président du bureau du Congrès, dans son discours d'ouverture, a mis en exergue les orientations du Parti des peuples africains. Le professeur Sébastien Danondjedji.
Nous avons élaboré un manifeste qui expose clairement nos choix et nos orientations. Les défis que nous voulons relever pour atteindre notre but.
Le logo du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a ensuite été officialisé, symbolisant la visée panafricaniste de ce nouveau parti. Notons la non-présence de Simone Ejvé Gbagbo à ce congrès constitutif, créant ainsi le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Delphine Bouhouise Feyan, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Nigeria, le gouvernement veut introduire une obligation de vaccination pour les fonctionnaires de l'État fédéral. Les autorités ont annoncé que les agents fédéraux qui n'ont pas reçu de vaccin contre le Covid-19 ne seront pas autorisés à entrer dans leur bureau à partir du 1er décembre. Comment le gouvernement va-t-il faire appliquer cette décision alors que les mesures de restriction sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus n'ont pas été respectées? D'Abuja, Gilbert Tamba.
L'obligation vaccinale concerne tous les personnels de l'administration exerçant dans les établissements et services publics, qu'ils soient ici au Nigeria ou dans des établissements et services de mission diplomatique nigériane à l'étranger. Boss Mustapha, président de la Commission nationale sur le Covid-19 et secrétaire général du gouvernement de la Fédération.
With effect from 1st December 2021.
À compter du 1er décembre 2021, tous les employés du gouvernement fédéral, sans exception, seront tenus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou de présenter un résultat de test PCR à Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures pour accéder à leur bureau dans tous les endroits au Nigeria et aux missions étrangères.
Deux États du sud du Nigeria avaient déjà rendu la vaccination obligatoire pour accéder aux lieux publics et aux rassemblements, suscitant de vives réactions. Une décision qui avait été révoquée par une haute cour fédérale siégeant à Port Harcourt, la capitale de l'État de Rivers. Pour sa part, Abuja avait accéléré la campagne de vaccination contre le Covid-19. Mais la menace du gouvernement fédéral ne semble pas obtenir le soutien de certains fonctionnaires comme Nathaniel Tom.
Je ne pense pas que cela soit notre problème. Donne-nous la sécurité et l'électricité. Je pense que si le Covid-19 avait vraiment affecté le Nigeria, tout le monde serait mort. Donc si vous prenez des décisions qui ne donnent pas à manger aux Nigériens ordinaires, cela ne va rien changer. Je pense qu'ils doivent se concentrer sur ce qui se passe dans le sud-ouest, le nord-est et autres.
La vaccination contre le Covid-19 reste un sujet qui divise à cause de nombreuses réticences observées. Deji Adeyanju du groupe des Nigériens concernés menace d'aller en justice pour tenter d'empêcher le gouvernement d'imposer la vaccination aux travailleurs.
C'est une violation des droits fondamentaux des gens. Comment pouvez-vous dire que les personnes non vaccinées ne peuvent pas avoir accès à leur lieu de travail? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui empêche les gens d'avoir accès à leur lieu de travail, des prières ou même dans le marché ou n'importe où. Nous allons contester cette décision devant la justice.
L'application de cette mesure sera difficile à faire respecter et dans un pays qui a reçu moins de 10 millions de doses de vaccins pour une population de plus de 200 millions d'habitants. Les autorités craignent que les citoyens qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 mettent en danger la vie des autres. Faisal Chaïb est le directeur exécutif de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaires.
Personne ne doit affirmer être en sécurité après avoir reçu le vaccin. C'est lorsque tout le reste est vacciné que nous pouvons parler de l'immunité. Et c'est en ce moment que nous pourrons aussi renforcer avec d'autres doses de vaccins, juste pour s'assurer que le niveau d'immunité ne gagne pas à un point tel que les gens deviennent vulnérables.
Plus de 7 millions de personnes seulement ont reçu une première dose dans tout le pays et plus de 2 millions sont complètement vaccinés, selon l'Agence nationale des soins de santé primaire. Le Nigeria a jusque-là enregistré 219 000 infections et plus de 4 000 décès depuis janvier 2020. Le gouvernement doit vacciner 70% de la population pour freiner efficacement la propagation du virus. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Au Gabon, chaque rentrée des classes comporte son lot de violences et de dérives en milieu scolaire. Les organisations de la société civile veulent attaquer le mal à la racine. Elles ont donc initié un programme de formation des relais communautaires pour protéger les jeunes face aux dangers des réseaux sociaux. De Libreville, Ismaël Obiangze.
Vidéo déshonorante. Photos compromettantes, les scandales via les réseaux sociaux se multiplient à Libreville et les premiers touchés par ce phénomène sont les jeunes.
Oui, ma copine, viens, on va faire un truc. On fait un truc sans mesurer les conséquences de l'acte que l'on pose.
Dans la cour de ce lycée, des milliers d'élèves sont interpellés par leurs proviseurs. À l'origine de ce grand rassemblement, un groupe d'adolescents de l'établissement ont été sanctionnés pour diffusion d'images obscènes sur la toile. Guinguemond, responsable du lycée.
Elles ont été punies par le conseil de discipline. Elles ont eu 21 jours d'exclusion. Dans les 21 jours, étant donné qu'elles ont fait 15 jours à la maison, entre le commissariat, le tribunal et tout ça, elles sont revenues ce matin. Elles vont vous lire une charte de bonne conduite.
Une charte de bonne conduite pour amener les mises en cause à reconnaître leurs torts, tout en les invitant à changer de comportement. Aldo Nantoutoum est à la tête d'un mouvement de jeunesse du lycée.
NJDJ est un mouvement pour conseiller, pour dénoncer certains faits qui se font dans les lycées. Lutter contre les fléaux qui minent le milieu scolaire, les drogues, les violences et d'autres.
Face aux dangers des réseaux, Massera Elisa appelle à des réponses adaptées à chaque société. Cette missionnaire italienne dirige un centre d'accueil pour enfants en difficulté à Libreville.
On n'a pas vraiment élaboré de grosses solutions. Et puis chaque pays et chaque peuple, il doit trouver ses propres solutions parce que comme les cultures sont différentes, les pays fonctionnent différemment. Donc il faut que chacun trouve ses propres solutions plus adaptées à son territoire.
Entre outils d'information indispensables ou espace de toutes les dérives, les organisations non gouvernementales du Gabon alertent sur l'urgence de bien gérer les réseaux sociaux tant à la maison qu'à l'école. Landry Bekalemitsa est informaticien.
L'Internet n'est pas mauvais en soi, mais c'est déjà, il faut déjà sensibiliser. Et on ne peut pas interdire l'Internet aux enfants, c'est impossible parce que nous vivons avec ça. Et les plus connectés de nos jours sont nos enfants. Donc nous avons le devoir déjà de montrer déjà les dangers aux parents. Parce que pour aller sensibiliser, il faut d'abord présenter le danger. Et ensuite, les enfants iront, et maintenant les parents iront présenter ce danger-là, ou sensibiliser les enfants, voilà, Internet, attention, tu ne peux pas partager tes données n'importe comment.
Le Gabon s'est pourtant doté d'une commission nationale pour la protection des données à caractère personnel sur Internet, mais les missions de sous-outils de régulation ont encore du plomb dans l'aile. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Au Burkina Faso, c'est parti depuis ce week-end pour la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture a réuni des milliers de personnes. Le Sénégal, cette année, est le pays invité d'honneur et les projections de films ont commencé avec ce pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le palais des sports de Ouagadougou a accueilli des milliers de festivaliers pour l'ouverture du FESPACO, une cérémonie riche en sons et en lumière sous une mise en scène du chorégraphe Serge Aimé Koulibaly. Le président Roch Kabore a donné le coup d'envoi du FESPACO 2021. Roch Kabore, président du FASO.
Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. C'est une occasion pour moi de saluer mon frère et ami, le président Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal soit l'invité d'honneur de cette 27e édition.
Après l'ouverture du festival, le premier film à être projeté au Ciné Burkina, Atlantique, de la franco-sénégalaise Mati Diop. Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers du chantier d'une tour futuriste, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un avenir meilleur, selon les synopsis du film. Parmi eux se trouve Souleymane, l'ama d'Ada, promise à un autre. Quelques jours après le départ des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage de la jeune femme et les filles du quartier sont sujettes à d'étranges fièvres. Ada est loin de se douter que Souleymane est revenu. À la fin de la projection, voilà ce que les cinéphiles retiennent. Ahmed Sawadogo, cinéphile.
Tout au long de ce long métrage, c'est l'aventure. Des jeunes qui ont voulu tenter l'aventure, finalement ça s'est mal tourné.
Djeng Diallo est un autre cinéphile.
Des jeunes qui travaillent ici en Afrique, mais qui n'ont pas été payés et qui n'ont trouvé d'autres chemins que d'aller ailleurs pour pouvoir vivre
Mathie Diop, la réalisatrice, explique son film.
C'est vrai que le Sénégal, je crois qu'il y a quasiment 60% de la population qui a moins de 25 ans. Il y a un potentiel extraordinaire et on a l'impression que cette jeunesse a très très peu de, voilà, de perspectives pour vraiment se construire. Et elle se retrouve souvent dans l'impasse de devoir partir en mer pour rejoindre l'Europe.
Durant la semaine, 239 films seront projetés dans les salles. 17 films sont en compétition officielle pour conquérir le talon d'or de Yenenga, le sacre suprême. Le Sénégal, pays invité d'honneur, aligne 14 films en compétition officielle. Le pays compte quelque 200 participants à cette biennale du cinéma africain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idriss Assédoudia et de Nani Talani, Georges Léonard Sagnou à la mise en onde et à la console Nick Ivanov. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.